Canal Sud 92.2. C'est bientôt théâtre.
Humanitäre Hilfe aus dem Ausland. Jede Nation ist mal so weit und hat's nötig. Das ist keine Schande. We are the world, we are the people. Gibt es eine Schlacht zu schlagen? Und einheimische Truppen sind überfordert. Formiert sich sofort in den freundlichen, gut ausgestatteten Nachbarstaaten eine Armee. Setzt sich ins Flugzeug, landet. Ist da. Hier sind wir, zum Einsatz bereit. Der Ansturm wird groß sein, stand im Feuilleton. Das hat man sich halt erbarmt und ging auf Reisen. Ja, da muss aufgerüstet werden, für so ein nationales Großereignis. Da helfen keine Doppelschichten, da helfen keine rasch eingewiesenen Gelegenheitsjobberinnen. Da muss Verstärkung her, im großen Stil. Ja, ich hab ja das Schlimmste erwartet, aber so schöne Boxen. Und das auch noch umsonst, da wo ich herkomme, müssen wir die Dinger mieten. Da stünd schon so ein breiter Kerl davor und hielt die Hand auf. In diesem netten Land spendet sowas die Regierung. Man muss das animalische Eingemeinde im Gesamtmenschen sehen. Das weiß auch jeder Stadtrat. Aber muss ja nicht gleich sichtbar sein für den sensiblen Spaziergänger, eventuell minderjährig. Drapiert man ein bisschen Blech drumrum. Gibt ihm einen schönen Namen, den man sich im extra angeraumten Plenum in großer Runde ausgedacht hat. Fickkassette. Lutschveranda. Nö. Hey, ich hab's. Der Bürgermeister persönlich hat eine Idee. Alle mal herhören. Achtung, jetzt kommt's. Verrichtungsbox. Toll was, meine Herren. Chapeau.
L'aide humanitaire de l'étranger. Toute nation en a besoin un jour. Ce n'est pas une honte. We are the world, we are the people. S'il y a une bataille à livrer, que les troupes indigènes sont débordées, aussitôt se forment dans les pays amis, les pays voisins, bien équipés, une armée. Elle saute dans un avion, atterrit, et là. Et nous voici prêtes à servir. L'assaut sera massif, pouvait-on lire dans les pages culture. Alors on a eu pitié et on s'est mis en marche. Oui, il faut renforcer son arsenal pour un événement national de cette ampleur. Rien ne sert de doubler les équipes, rien ne sert de faire venir des extras en appoint, briefés à la hâte. Il faut du renfort, il faut du lourd. À vrai dire, je m'attendais au pire. Mais des box aussi beaux, et gratuits en plus. Là d'où je viens, il y aurait déjà un gros costaud posté devant. Main tendue pour encaisser. Dans ce charmant pays, c'est un cadeau du gouvernement. L'animalité, il faut l'englober dans une vision holistique de l'être humain. N'importe quel conseil municipal vous le dira. Mais ça n'a pas besoin de se voir. Pour le promeneur sensible, éventuellement mineur, on drape un peu de tôle autour, on lui donne un joli nom, élucubré dans une assemblée plénière, convoquée tout exprès. Boîte à baise. Oh non. Véranda à turlute. Non. Je sais. Le maire en personne a une idée. Écoutez-moi tous. Attention, cette fois ça vient. Box à prestation. Génial, non, messieurs? Chapeau.
Merci. Donc vous venez d'entendre respectivement Roma Tichkevitch, excusez-moi. Étudiante en philo, Joanne Sans la ville, décidément, excusez-moi, qui est étudiante en allemand et en anglais, mais au centre de traduction et d'interprétation et de médiation à l'université Toulouse Jean Jaurès, est présente aussi Catherine Mazelier, qui est enseignante en allemand à l'université Jean Jaurès et qui est traductrice et qui accueille aussi l'auteur du texte que nous venons d'entendre, et aussi Florian Guéraud, étudiant en allemand. Et c'est pour la compagnie de la vieille dame, c'est la compagnie qui présente du théâtre en langue allemande de l'université, de la section allemande de l'université Toulouse Jean Jaurès, et ça s'inscrit dans le cadre d'Univers Scène, dont ce festival qui est dédié aux diverses compagnies de langue de l'université Jean Jaurès. Et donc, il y a une première ce soir à la Maison des Actions Culturelles de la Cité Universitaire, Chapou, à 20h, c'est bien cela. Et il y aura une autre représentation mardi, toujours à 20h. Mais ce soir, il y aura l'auteur, alors je vais essayer de bien prononcer, sinon vous rectifierez, c'est Rebecca Kricheldorf, c'est ça, donc qui est une auteure contemporaine, toute jeune. Et le titre de sa pièce, je vais peut-être vous le laisser dire, parce que malheureusement, je ne parle pas la langue de Goethe et je n'aime pas écorcher les noms.
Alors, il s'agit de Liebesdienst, qui est un titre tiroir en quelque sorte, parce que, bon, Dienst, c'est le service, mais aussi ça peut être le service liturgique, le culte ou la messe, et également, donc, c'est le service rendu, la prestation, avec un mot très polysémique qui est le mot Liebe en allemand. Liebe, c'est l'amour, le sentiment amoureux, mais c'est aussi l'acte sexuel, et donc évidemment ici il prend tout son sens, et c'est pour ça que finalement après beaucoup de débats, notamment avec les étudiants et étudiantes qui assurent le surtitrage de la pièce, et puis avec ma comparse Inda Hindervildi qui dirige avec moi la collection Nouvelle Scène Allemande, et finalement on s'est porté sur la traduction de sex-service, qui est un peu plus choc, un peu plus cru que l'original, où on perd la dimension de sentiment, mais cette dimension, je crois qu'elle est récupérée dans le texte même, qui est assez poétique malgré le sujet.
Parce que voilà, pour présenter l'histoire, enfin, c'est une commande qui a été faite à cette auteure, c'est bien ça?
Oui.
Et c'était donc en 2006, hein, lors de le mondial.
C'était pour le mondial de foot en 2006.
Voilà, où il avait été dit que de nombreuses travailleuses du sexe ou de prostituées affluait vers l'Allemagne pour justement pouvoir satisfaire les désirs de ces messieurs. En gros, c'était ça.
Oui, hein? Oui, oui. Donc, on pouvait lire dans les journaux à l'époque qu'on attendait 40 000 prostituées en renfort, puisque les troupes locales, disons, n'étaient pas suffisantes. Alors, bon, il y a une grande partie de rumeurs, bien entendu. Hein. Ça, c'est un sujet qui revient d'ailleurs dans la presse française, ouais. Exactement. Oui, oui, on l'a eu aussi en Afrique du Sud.
Oui.
On l'a eu pour l'Euro de foot en 2016. On pouvait lire pas mal d'articles sur le sujet également. Et donc, Rebecca Kricheldorf, cette auteure contemporaine, a choisi de donner la parole à 4 prostituées, 4 parmi ces fameuses 40 000 prostituées qui seraient venues ou qui viendraient en renfort au moment du mondial. Voilà, donc on s'est dit que c'était un texte aussi d'actualité, hein, puisque le mondial est devant la porte également. Voilà.
Et qui a toujours, comment dirais-je, entre le foot et le sexe, il y a toujours comme ça des rencontres, enfin des correspondances, enfin bon, certains joueurs s'étant, fait prendre, entre guillemets.
On a effectivement l'exemple de Zaya, voilà. en tête.
Hein, oui, oui.
Oui, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de ça. Bon, d'abord, il y a effectivement des liens qui peuvent être constatés, pas seulement entre le foot,
le
sport,
oui,
de manière plus générale.
Et les abus qu'il peut y avoir,
l'argent, le sexe. Hein, oui, c'est cette triade.
Vu que c'est une industrie à part entière, donc c'est des industries qui se croisent et qui génèrent d'autant plus d'argent.
Voilà, alors c'est des industries différentes, hein, on va dire qu'il y a peut-être aussi un peu plus d'artisanat d'un côté et un peu plus de format industriel de l'autre. Mais en tout cas, effectivement, c'est cette chose-là qu'elle a voulu...
Cette connivence, si on peut dire.
Mais au-delà de ça, c'est vraiment une satire sociale, hein, une satire de la société.
Oui, oui, j'imagine, avec ses travers. C'est une analyse fine et sociologique, d'une certaine manière, je suppose. Enfin, vous pouvez intervenir tout autant que vous êtes. Enfin,
oui, en tout cas, moi, je vois bien une critique sociale, surtout parce que les filles, elles sont, même dans le dialogue même, elles sont toujours dans ce tragicomédie de se moquer de leur situation, de se moquer des clients, de se moquer du fait qu'elles ont été envoyées ici pour renforcer les troupes. Il y a tout le temps un petit peu le dialogue de guerre et de combat derrière, mais que ça reste tragique jusqu'au bout, finalement, parce qu'elles ne sont pas entièrement zen avec leur situation. Dépend le rôle. Chaque fille est légèrement différente, mais il y a ce côté critique comique, dans le langage et dans le jeu, finalement, aussi.
avec en même temps une réflexion par rapport, par rapport au thème de la prostitution en soi, que ce soit le fait que la prostitution en Allemagne est quand même plutôt encadrée, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays d'où elles viennent, vu que les quatre prostituées qu'on incarne sur scène...
Viennent du RS
C'est pas tout précisé, mais les noms laissent entendre qu'il y en a beaucoup qui viennent des pays de l'Est, en tout cas hors d'Allemagne. Mmh. Et qui sont toujours tous des figures étrangères, en tout cas de l'étrangeté. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Enfin, si vous venez nous voir ce soir, vous verrez aussi que c'est... Enfin, l'auteur joue beaucoup avec les niveaux de texte, aussi qui, du coup avec le recul par rapport à leur fonction, leur métier, tout simplement. Mmh. Avec à la fois un recul, mais aussi une forme de... différentes formes de justification, quelque part, de leur fonction, justement, par rapport à ce qu'elles font.
Et le fait que, justement, elles viennent d'ailleurs, enfin, et donc elles, déjà, ne sont pas censées forcément parler la langue allemande, donc ça renforce, en plus, me semble-t-il, le côté exploitation de l'être humain, quoi.
Bah, surtout, ce qui est super intéressant avec cette pièce, c'est qu'elles ont un langage très soutenu, mm-hmm. à plusieurs reprises. D'accord. Des mots que même moi, en tant qu'allemande, je n'ai jamais entendu avant. Dia. Il y a vraiment un langage très soutenu, très, très lourd. Mm-hmm. Et ça brise exactement avec ce préjugé de l'étrangère prostituée qui ne sait parler que trois mots allemands. Mm-hmm. Et c'est très drôle. Et tout d'un coup, de temps en temps, ça bascule vers le vulgaire. Et après, ça revient sur le soutenu. Mm-hmm. Il y a tout un jeu autour du langage même dans cette pièce.
Oui, différents niveaux de langage. C'est, donc.
C'est des envolées lyriques ponctuées de vulgarité, si on peut dire. Ouais,
alors ça, c'est caractéristique du langage de Rebecca Krieffeldorf, qui est d'accord. quelqu'un qui aime beaucoup, justement, ne pas travailler avec une forme de réalisme psychologique ou réalisme de la langue. Le langage de ces personnages est toujours en décalage avec leur situation sociale et leur ancrage social. Mm-hmm. Et c'est ce qui rend la chose très intéressante. C'est cette distance permanente qu'ont les personnages envers eux-mêmes, et en même temps, sans doute aussi, ce qui rend la tâche à la fois intéressante et compliquée pour les comédiennes et les comédiens, mm-hmm. qui doivent eux-mêmes avoir cette distance par rapport au rôle.
Jouer avec tout
ça. Exactement. Et également aussi pour les surtitreurs, mm-hmm. L'équipe des surtitreurs et des surtitreuses, puisque le spectacle est joué ce soir à Chapou en allemand, mm-hmm. mais il sera surtitré donc par les étudiants du CETIM. Il sera surtitré en français, donc même quelqu'un qui ne comprend pas du tout l'allemand peut suivre tout à fait la pièce, et aussi apprécier la langue de Rebecca Krieffeldorf, puisque le travail de surtitrage a vraiment rendu aussi cette dimension-là.
Oui, c'est tout l'enjeu des surtitres, en fait. C'est-à-dire que c'est un travail de condensation, mais qui vise à vraiment garder le style de l'auteur vivace. Donc c'est vraiment une grosse difficulté.
Oui, j'imagine.
Donc on verra ce soir si ça a marché ou pas.
Oui, il faut que vous épousiez son ton, enfin.
Exactement, dans vraiment un espace très réduit. Oui. Parce que comme c'est projeté sur la scène, tout dépend du cadre, on va dire, qui nous est réservé.
Mm-hmm. Et combien, puisque vous êtes sur scène, de comédiennes et comédiens ?
On est à peu près 9 comédiens, mais après 6 qui ont du texte. Du coup,
il y a 3 danseurs supplémentaires, une fille et 2 garçons.
Oui.
Et du coup, les 4 filles, comme ils sont dans la pièce, ils ont été doublés en 7.
D'accord.
Donc, par exemple, il y a 2 personnes qui jouent la Oksana, encore 2 qui jouent Tomako, le Kübel, donc Florian est tout seul. Et après, il y a dans une scène de danse, il y a les fans de foot qui sont représentés aussi, mais qui du coup n'ont pas de texte.
Et vous, quel rôle jouez-vous ?
Moi, je joue Oksana.
D'accord. Et quelle est votre caractéristique, la caractéristique du personnage que vous interprétez, pardon.
Moi, j'ai vu Oksana comme la plus drôle, finalement, des filles. Elle a arrêté de rêver un petit peu comme le fait Tamako de temps en temps. Mmh. Tamako, c'est quelqu'un de très romantique. Mmh. Tandis que Oksana, elle a perdu ce côté romantique. Elle est très drôle avec elle-même.
Plus ancrée dans la réalité.
Ouais, plus ancrée dans la réalité, mais encore... C'est le personnage qui se moque le plus de son rôle. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui aime bien rigoler des faits, elle aime bien dire de temps en temps des gros mots, rigoler très fort, se moquer des clients, se moquer des personnages, se moquer des autres filles aussi. Mm-hmm. Donc c'est la plus satirique, je dirais.
Et c'est peut-être celle qui, entre guillemets... s'en sort le mieux. Enfin, excusez, le fait de pouvoir avoir beaucoup de recul, de pouvoir se moquer, ça peut peut-être l'aider à...
Je pose la question. J'ai l'impression qu'elle s'en sort le mieux, tandis que son parallèle, qui est Tamako, s'en sort quasiment pas du tout. Il y a la scène finale où cette fille, elle est entièrement brisée. Mm-hmm. Et c'est le côté tragique, tandis qu'Oksana, elle a le côté drôle. Mm-hmm. Et après, il y a encore la vieille qui est mise à part. Mais il y a... Ouais. Ouais, je dirais que c'est la plus drôle, la plus satirique. Celle qui s'en sort le mieux, parce qu'elle garde...
Une distance.
Qu'elle garde le rire et le sourire derrière. Mm-hmm. Ouais.
Et qu'elle peut, oui, comme ça... Mieux. Non. Et vous, quel rôle jouez-vous?
Et moi, du coup, je joue le Kübel, c'est-à-dire le saut.
Le quoi, pardon?
Le saut. C'est-à-dire que mon personnage porte un saut sur la tête.
Ah, d'accord, pardon.
C'est son nom dans la pièce, Monsieur Saut. Enfin, même pas
Madame
Monsieur.
Saut.
Madame Saut, du coup.
D'accord.
Et c'est justement toute l'ambiguïté avec laquelle je peux jouer. C'est que littéral. Comme dit mon personnage à un moment donné dans la pièce, je peux être n'importe quoi pour n'importe qui. C'est-à-dire que je suis l'objet de tout le fantasme possible.
Mmh. Oui.
Ce qui est très pratique, mais ce qui est aussi très absurde parce que. Du coup, vu que je joue pendant pratiquement toute la pièce avec un saut sur la tête, c'est assez curieux et souvent et très assez absurde. Du coup, il y a une bonne dose d'humour qui peut venir de la prestation, de la performance.
Un saut, on peut le remplir de n'importe quel contenu. Alors d'ailleurs, j'avais demandé à l'autrice, Rebecca Krichildorf, s'il y avait une allusion littéraire ou mythologique, enfin, qui nous aurait échappé dans le saut. Mais elle a dit que non, que voilà, il fallait la prendre effectivement comme une manière de cacher aussi et de laisser la place libre à tous les fantasmes possibles, à tous les contenus possibles.
C'est vrai que le fait de cacher, c'était aussi quelque chose qui m'a un peu interpellé, parce que c'est à la fois... cacher le visage authentique pour laisser place au fantasme, pour calquer les fantasmes sur la personne, mais en même temps, ça permet aussi de cacher l'identité de la personne. Ça renvoie aussi un peu au côté honteux de la prostitution. Mmh. Par exemple, je pourrais, en théorie, tous les personnages qui sont là sont des étrangers. Le mien encore plus, vu qu'un saut sur la tête, c'est encore plus étrange que n'importe quel étranger. Mais là, je pourrais aussi bien être un Allemand qui se cache, qui ne veut pas être reconnu. Qui a une forme d'anonymat, du coup. Mmh.
Et j'ai oublié lors de la présentation de dire le nom du metteur en scène, je vous le laisse dire aussi, puisque bon, je l'avais rencontré il y a très longtemps, je l'avais interviewé, qu'elle était étudiante.
Oui, c'est Thomas Niklos. Mm-hmm. Et Thomas Niklos, il a joué également, il était là dans l'autre aventure autour de Rebecca Krichildorf, une pièce qui s'appelle La balade du tueur de conifères, autour de l'héritage de 1968, et qui avait été jouée au théâtre Sorano.
Tout près d'ici.
Voilà, avec donc Jean-Paul Confet aussi pour la mise en scène.
Oui, qui à l'époque était responsable de la compagnie de
la vieille dame. Mm-hmm. Et Thomas Niklos a pris le relais. Mm-hmm. Ouais.
Parce que moi, je l'avais vu, il était étudiant. Et donc, je voulais savoir justement les parties de prix de mise en scène. Comment tout cela s'articule-t-il et comment vous, la comédienne et le comédien, puisque vous êtes ici présents, vous êtes emparés de ce texte pour pouvoir le restituer au mieux?
C'est-à-dire par rapport à la structure de la pièce ou comment...
Comment avec cette langue, avec cette parole, vous la portez sur scène, comment vous l'appropriez, voilà, c'est ça le terme que je cherchais.
Tout dépend, par exemple, pour Roma, c'est peut-être plus facile étant donné qu'elle est de langue allemande, de langue maternelle allemande, mais après, c'est pour d'autres comédiens tels que moi ou des autres personnes qui sont aussi de langue française, c'est peut-être plus difficile, plus compliqué de percevoir et de restituer les nuances du bien proposé par le texte, encore que maintenant, avec le travail, on arrive à le faire, on est obligé de le faire. Mm. Mais non, a priori, c'est quelque chose ça passe d'abord par la bonne compréhension des personnages et des situations, mais c'est un travail qu'on a fait un peu en commun pendant différentes sessions. On a discuté ensemble un peu par rapport à la pièce en général, mais aussi par rapport aux personnages eux-mêmes, à leur motivation, ainsi de suite, et tout ce qu'on pourrait rendre par rapport à ça, ce qui n'est pas toujours évident. Ça tout dépend aussi des circonstances, et surtout vu que c'est une pièce qui a un côté tragique-comique, c'est de jouer un peu sur l'ambiguïté des situations qui permet aussi de donner plusieurs prestations, enfin performances possibles aussi, plusieurs manières de rendre les personnages possibles. À la fois un côté humoristique, mais aussi le côté un peu tragique de la situation.
Et surtout, moi j'ai vu aussi, au point de vue interprétation, que Oksana et Tamako, c'est apparemment les deux filles les plus jeunes, et qu'elles parlent un langage aussi soutenu, romantique et... quelques reprises même du très vieux allemand, ça brisait un petit peu avec ce côté de la prostitution vulgaire. Et du coup, moi, j'ai vraiment vu de dire aussi que ces filles ne sont pas stupides, qu'elles ne sont pas forcément de basse éducation, que justement aussi la Tamako, comme elle a un caractère très romantique, ça le soulève aussi. Elle parle de jeunes hommes qui se baladent sous la lumière de la lune, etc.
Effectivement.
Et oui, du coup, ça renforce aussi le comique et ça renforce aussi cette idée qu'on se moque de la société justement parce qu'on n'est pas stupide. On fait un boulot qui est certes dur et vulgaire, mais nous-mêmes, on garde le côté intelligent, critique sur nous-mêmes finalement.
Au final, on reste humain, c'est ça.
On reste humain, ouais. Même si le langage finalement, il est tellement démodé qu'il brise aussi avec ce côté humain, moderne. Donc ouais. Moi, je vois vraiment un brisement avec la réalité.
Oui, c'est cette volonté de non-réalisme qui oblige à réfléchir. On ne peut pas prendre les choses comme pour argent comptant. Pour ainsi dire, on est obligé d'y réfléchir. Et je pense que c'est ça qui était vraiment un défi intéressant aussi pour la traduction, notamment pour le surtitrage. Comment rendre l'alternance entre poésie et puis des choses
plus crues. Langage un peu plus cru, dirons-nous.
Voilà, donc je ne sais pas si...
Oui, vous voulez en parler.
Alors, il y a une difficulté aussi là-dedans, c'est le fait que c'est beaucoup plus cru quand c'est lu que quand c'est dit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on a dû faire attention. Mais voilà, on a quand même décidé de rendre les mots vulgaires dans nos surtitres, même si parce qu'on s'est dit que c'était le principe même de la pièce, en fait, cette alternance entre vulgaire et puis vraiment des envolées lyriques.
Entre chic et choc.
Et chic et choc, exactement.
D'accord. Okay. Et j'aimerais savoir, puisque vous parlez de ce langage si soutenu par moment et comme ça, est-ce que justement, d'une certaine manière, le fait qu'elle ait prêté à ses héroïnes, entre guillemets, un langage comme ça très soutenu, qui renvoie à des personnes fort cultivées, est-ce que c'est d'une certaine manière une forme de déclaration d'amour à ces femmes?
C'est possible aussi, oui.
Enfin, c'est en vous écoutant que voilà que la question me traverse.
C'est qu'en en parlant du côté presque pratiquement intellectuel de ce discours-là, je me suis souvenu de par exemple d'avoir lu des articles où dans lesquels des prostituées sont interviewées et qui en fait par exemple étaient des étudiantes sur les choses qui sont retrouvées que ce soit par la force des choses ou par leur propre volonté à faire ce travail de prostituée en parallèle de leurs études. Du coup c'est vrai que ça peut aussi renvoyer à un côté un peu quelque part aussi presque réaliste de la situation vu que c'est La misère sociale, la misère matérielle dans laquelle ils sont forcés n'empêche pas qu'il y ait aussi un certain degré intellectuel ou en tout cas un certain degré culturel.
Mais c'est une question que vous pourrez poser directement à l'auteur ce soir quand elle sera présente.
Il y a une histoire de contraste.
Il y a un effet d'étrangeté qui est vraiment voulu. Il y a un petit côté aussi un peu brechtien, forcément, de créer de l'étrangeté. Elles viennent de l'étranger, elles sont étrangères, mais elles sont encore plus étrangères. Par ce discours-là. Donc, on est obligé, on ne peut pas être embarqué complètement dans l'histoire sans réfléchir, on est obligé de réfléchir. On est obligé de se poser en permanence et d'être mal à l'aise parce qu'on est mal à l'aise entre ces différents discours aussi. Donc, on est obligé de se poser des questions d'être attentif et attentive à la satire. Donc, ça, je crois que c'est un élément vraiment réussi. Très réussi de la pièce.
Et surtout, il y a un petit détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que la prostitution en Allemagne, c'est légal.
Oui, depuis 2002, effectivement, l'Allemagne a légalisé.
C'est légal. Ici aussi, dans le texte, on voit clairement qu'elles sont encadrées.
Oui.
Il y a des box qui ont été mises à disposition. Elles sont là effectivement pour ça. Il y a la mairie aussi qui leur a donné une place. Et on parle de plusieurs reprises du maire qui a donné un nom à ces box. Et aussi en Allemagne, en réalité, ça fait qu'il y a toutes sortes de classes sociales, des filles de toutes sortes de milieux, de background qui finalement se retrouvent à la rue, pas par misère et pauvreté, mais par choix dans plusieurs reprises. Des filles qui... Il y a une jeune étudiante qui était pas mal dans la presse en Allemagne dernièrement, qui a fait des études, je crois même qu'elle a un doctorat de haut niveau et qui voulait faire une expérience sociale et qui finalement a tellement aimé ce milieu. Cette expérience, ça lui a donné tellement d'informations sur le milieu social qu'elle est restée. Donc c'est aussi différent, je crois, que l'Allemagne et la France sur ce point de vue. Et je pense que c'est aussi ce qui se masque derrière ce langage.
Et est-ce que justement sur ce... Derrière ce prisme de la prostitution, justement, il y a une fine analyse sociologique de la société contemporaine, si on peut dire.
Oui, quelque part oui, parce que assez souvent dans le texte, il y a des passages où les prostituées, l'auteur met quelque part en avant le côté hypocrite de la société, avec un passage notamment qui est assez drôle, dans lequel les prostituées parlent des gens qui passent à côté d'eux alors qu'elles sont sur le trottoir, et les épouses qui disent à leur mari: ah, mais tiens, on fait jamais des trucs aussi marrants chez nous, ce genre de choses. Bon, du coup, c'est
oui, ou l'image, enfin notamment l'image des clients de bar qui veulent se donner un côté méditerranéen, salsa et sang chaud, etc., et qui en fait sont décrits comme de gros lourds au bar, imbibés d'alcool. Et donc toute cette satire finalement de l'image qu'on voudrait donner de soi, qui est en décalage avec la réalité. Donc en permanence, ce décalage-là qu'on peut observer au niveau des prostituées, on peut l'observer au niveau de l'image qu'on aimerait renvoyer de soi du côté des clients. Donc oui, il y a vraiment une écriture très
acérée,
très corrosive chez Rebecca Kricheldorf, et jamais appuyée. Ça reste dans le léger, même lorsque ça devient
tragique.
Grave.
C'est marrant d'ailleurs, parce que du coup on voit que les prostituées que nous incarnons sont vraiment extrêmement perspicaces et très observatrices. Absolument.
D'accord. Donc, malheureusement, nous allons devoir nous séparer très vite, puisque j'ai un second invité, dont la première est ce soir à la Maison des Actions Culturelles à Chapoux.
Oui, Chapoux, Pont-Jumeaux, c'est accessible par la ligne 1 du bus ou sinon par le métro Compense-Caffarelli. Très facilement accessible. C'est à 20h. La pièce est relativement courte, à peine une heure. Et donc, elle sera suivie d'un bord de scène avec l'autrice, Rebecca Kricheldorf.
C'est vous qui assurerez la traduction, c'est ça ?
Alors, sans doute, on verra. Elle parle un petit peu le français.
D'accord.
Sinon, ma collègue Hilda Endervildi. Et puis, on aura les étudiants et les étudiantes du CETIM avec nous aussi pour traduire si besoin est. Et ça sera rejoué dans le cadre du Festival Universcène. Alors, cette année, Universcène est délocalisée.
Au vu que l'Université Jean Jaurès s'est occupée.
Voilà, pour le moment, l'université est bloquée. Donc, le Festival Universcène aura lieu dans un autre lieu et à d'autres dates. Donc, c'est du 3 au 13 avril 2018 à la Gare aux Artistes, qui nous fait vraiment la gentillesse, c'est ça, de nous accueillir à Montrab, donc Jean-Claude Bastos, avec donc plusieurs troupes qui jouent toutes en langue originale, avec donc des surtitrages. Donc vous pourrez consulter tout le programme, c'est sur Facebook, donc en tapant Universcène. Voilà, il y aura tous les renseignements pour l'édition 2018, qui est la 11e édition de ce festival universitaire.
Mais je vous convierai de nouveau, les différentes compagnies, puisque là j'ai un peu de temps devant moi, puisque en fait c'est un peu retardé dans le temps. Et il faut aussi préciser que ces textes, après, sont toujours édités en bilingue aussi.
Oui, la plupart des textes paraissent dans notre collection bilingue de théâtre contemporain, qui s'appelle Nouvelle Scène. Et dans laquelle on peut lire des textes contemporains dans différentes langues, et même depuis l'an dernier en français. Donc il existe maintenant une collection Nouvelle Scène francophone sur des textes ultra contemporains et engagés politiquement.
D'accord.
Et surtout, c'est intéressant aussi de savoir que le festival est entièrement gratuit et qu'il n'est pas réservé aux étudiants, mais à tout public.
Bien sûr.
Toute personne peut venir. Il ne faut pas être étudiant pour avoir une place gratuite. C'est vraiment, tout le monde peut venir et c'est gratuit pour tout le monde.
Et justement, puisque là, vous êtes, oui, il y a un étudiant, deux étudiantes, c'est ça? Vous êtes enseignante. Est-ce que le fait, voilà, que vous ayez choisi de faire du théâtre, justement, qu'est-ce que ça obéit? Enfin, ça répond à quoi dans votre cursus? Parce que bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, quoi. C'est volontaire.
Bah, moi, je trouve ça très sympa comme changement des études qui, des fois, deviennent un petit peu secs au niveau des révisions. Mmh. C'est très stressant. Et le théâtre nous donne la possibilité de sortir de ce cadre, de faire un truc social avec d'autres gens, de retrouver des anciens amis, retrouver des nouvelles. Et finalement, c'est toujours très amusant. Bon, ça prend beaucoup de temps, surtout vers la fin.
J'imagine.
Mais c'est un temps que, en tout cas, moi, j'aime bien investir dedans.
Oui. Mais c'est que, par exemple, moi, personnellement, en tant qu'étudiant, enfin, ancien étudiant en allemand, c'était aussi d'abord l'intérêt personnel pour le théâtre, mais aussi le côté pratique, le fait de pouvoir pratiquer l'allemand et retrouver des gens qui font aussi l'allemand, ce qui parfois, enfin, pas toujours évident, même dans le milieu universitaire, vu qu'on a des classes assez petites. C'est toujours intéressant, et comme disait Roma, c'était toujours bien de voir que l'université proposait d'autres activités à côté, en parallèle aux cours. C'est pas juste un lieu d'études, mais aussi un lieu de vie et un lieu de vie culturelle.
Bien sûr.
Et mine de rien, c'est aussi... quelque part, pour les étudiants, une manière aussi de diversifier ses compétences, de s'ouvrir un peu sur...
sur le monde.
Sur le monde, oui, et d'autres... des compétences, des capacités possibles et des opportunités possibles, vu que via le théâtre, on peut aussi découvrir un peu mieux la vie culturelle à Toulouse, ou bien à travers la fac, faire des rencontres par le biais des associations et des différents soutiens, tels que le CROUS et la fac de manière générale.
Et vous? Moi, en tant qu'étudiante en traduction, ça fait partie de mon cursus, en fait, donc ça casse un peu le mythe. Par contre, c'est vraiment une opportunité qui est géniale, parce qu'on assiste aussi aux répétitions, puisqu'on est, on est obligé, pour pouvoir mettre au point nos surtitres, pouvoir gérer un petit peu la façon dont tout va s'agencer.
De l'appréhender. Oui.
Voilà, et donc on a aussi une vision sur le théâtre qu'on n'a pas du tout au sein de notre cursus, quoi.
D'accord. Dernier mot, l'enseignante.
Ben, moi, je vous invite à venir voir et écouter nos troupes étudiantes. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, dès ce soir, 20h à Chapou.
Et mardi. Puis,
et mardi également. Et sinon, du 3 au 13 avril, au mois Universen. Voilà.
Donc, sex service, la prestation gratuite.
Merci. Je vous remercie infiniment.